des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, narcolepsie, somnambulisme ou encore terreur nocturne, notre invité dans cette nouvelle émission Parcours s'intéresse de très près à ces pathologies bien particulières du sommeil. Isabelle Arnulf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurologue, chercheur à l'INSERM, à l'unité 975 à l'Institut du cerveau et de la moelle. Vous dirigez l'unité de pathologie du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez notamment travaillé avec Michel Jouvet à Lyon. Michel Jouvet qui est spécialiste des rêves et membre ici à l'Académie des sciences. Et vous avez croisé également le chemin de Claude Debru, également membre de l'Académie des sciences. Et puis rapidement, vous vous penchez sur les comportements anormaux pendant le sommeil pour comprendre comment fonctionne le cerveau. Et vous allez nous expliquer dans quelques instants comment, dans certains cas, on peut peut-être prévenir la maladie de Parkinson et certaines démences. En tout cas, aujourd'hui, vous recevez le prix de la Fondation Énergie, une fondation de l'Institut de France, un prix que vous recevez conjointement avec votre confrère, le professeur Tafti, qui étudie, lui, de son côté, les causes neurobiologiques de la narcolepsie. Il est professeur à l'Université de Lausanne et co-directeur du Centre de recherche et d'investigation sur le sommeil. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais avec nous par la pensée, si je puis dire, et donc vous êtes amenés à travailler régulièrement ensemble. Alors, peut-être pourriez-vous commencer par nous dire, au niveau du sommeil, comment les choses se passent. Il y a plusieurs phases, et puis à partir de ce moment-là, on va pouvoir avancer sur ces troubles qui vous intéressent. On connaît le sommeil paradoxal, que d'ailleurs a identifié Michel Jouvet. C'est lui qui l'a appelé ainsi, sommeil paradoxal, parce que je crois que le cerveau est très actif, alors que le corps, lui, ne bouge pas ou très peu. Et puis, il y a le sommeil lent, dans lequel on retrouve sommeil profond et sommeil léger.
C'est ça, bah oui, vous avez déjà très bien expliqué. Il s'oscille au fur et à mesure de la nuit, on s'endort en sommeil lent léger, puis on atteint le sommeil profond, surtout sur le tout début de la nuit. Et puis au bout d'une heure et demie, on fait une dizaine de minutes de sommeil paradoxal. Ça, on a fini notre premier cycle de sommeil et on va recommencer au fur et à mesure de la nuit, entre 3 et 5 fois. On va avoir du sommeil lent profond, surtout en début de nuit, quasiment pas en fin de nuit. Et les phases de sommeil paradoxal sont assez courtes au début de la nuit et assez longues en fin de nuit. Ce qui fait que les problèmes liés au sommeil profond se verront surtout dans la première heure qui suit l'endormissement, alors que les problèmes liés au sommeil paradoxal se verront plutôt en fin de nuit, quand les phases de sommeil paradoxal sont très longues.
Alors, quels sont les problèmes liés au sommeil profond ?
Les problèmes liés au sommeil profond, les problèmes comportementaux nocturnes, oui. Donc ce qui nous intéresse, les principaux, ceux qui sont connus de tout le monde, c'est le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels. Ce sont des phénomènes dans lesquels nos patients sont à moitié endormis, à moitié réveillés, la moitié antérieure de leur cerveau est en sommeil profond, alors que la moitié postérieure, celle qui contient les circuits moteurs, la vision, est en état d'éveil. Ils sont dans un état chimère dans lequel ils poursuivent leurs rêves tout en étant capables de se lever, d'ouvrir les portes et de voir un certain nombre d'obstacles. Mais ils sont confus à ce moment-là, et ça c'est vraiment typique du somnambulisme. Dans la variante terreur nocturne, c'est une variante où les personnes à ces comportements-là s'associe une peur intense avec un cri souvent très fort, hitchcockien, glaçant en début de nuit. Et puis la volonté en général d'échapper à un danger imminent, c'est ce qu'il y a comme contenu mental quand on le recueille à ce moment-là. On les enterre vivants, le plafond s'écroule, c'est toujours des scénarios brefs et horribles.
Donc ça va plus loin que le simple cauchemar, il y a les gestes qui sont associés.
Oui, et des gestes.
Gestes et paroles.
Gestes et paroles, mimiques, accélération cardiaque. Tous les marqueurs d'une émotion intense sont associés chez ces dormeurs à demi éveillés.
Et dans le cas de la narcolepsie ?
Alors, la narcolepsie est un trouble de l'éveil. Les personnes s'endorment brutalement dans la journée, dans le sommeil paradoxal. Et dans ces cas-là, elles ont, en s'endormant ou en se réveillant, trop vite du rêve. Au lieu d'attendre une heure et demie pour atteindre le sommeil paradoxal, elles l'atteignent tout de suite. Ce qui fait qu'elles peuvent l'atteindre dans un état de demi éveil, ce qui donne l'impression d'avoir des hallucinations. Elles ont les yeux ouverts. Où elles viennent de les fermer, et à ce moment-là, l'impression d'un fragment de rêve qui se projette complètement devant eux, et qui peut être parfois très désagréable. Des têtes coupées, l'impression d'un intrus dans la pièce, dans les cas agréables, l'impression de flotter au-dessus du lit, de sortir de son corps. C'est extrêmement variable. Alors ça peut arriver aussi dans les moments de fatigue dans la journée, ces apparitions brutales debout, de rêves éveillés, avec l'impression, quand on conduit en voiture, qu'un petit enfant est en train de traverser sur l'autoroute, et ils vont freiner brutalement parce que ça paraît sur le coup très réel. Le temps de s'apercevoir que ça n'était qu'une image de rêve qui s'est projetée devant leurs yeux.
Ça concerne, pour ce qui est justement de ces troubles du sommeil profond, cela concerne un public essentiellement jeune. On pense au somnambulisme, par exemple. On sait que souvent, les enfants ont des phases comme ça de somnambulisme.
Oui, à peu près 17% des enfants sont somnambules. Ça persiste à l'âge adulte. Il y a 4% de la population qui continue à parler, sortir du lit, s'asseoir sur le lit, parfois crier. Donc, c'est pas si rare que ça. La narcolepsie, c'est une maladie du sujet jeune. Hein. Effectivement, c'est des jeunes qui s'endorment en classe, en cours, au lycée. Elle va persister, elle, toute l'existence. Alors que le somnambulisme, ça menuise petit à petit. Et après 30 ans, c'est beaucoup plus rare. Ça, c'est le premier trouble comportemental du sommeil lent. Il existe des troubles du comportement en sommeil paradoxal qui sont une autre partie de nos recherches.
Alors, on va y venir justement. Et c'est ce sur quoi vous travaillez en particulier, ces troubles du sommeil paradoxal. Alors, on le disait en préambule de cette émission. Donc, c'est Michel Jouvet qui a mis ce nom de sommeil paradoxal sur cette phase du sommeil où, effectivement, nous sommes allongés, bien sûr, mais nous bougeons très très peu et, par contre, l'activité cérébrale, elle, est intense. Comment se fait-il que, et vous allez pouvoir nous expliquer, dans certains cas de sommeil paradoxal, il y a aussi des agitations et notamment des violences?
Alors, quand Michel Jouvet avait trouvé la paralysie en sommeil paradoxal, il a fait différentes expériences pour montrer que c'était une paralysie active, un verrou qui se situait dans le tronc cérébral, c'était chez des chats à l'époque, et il a détruit ce verrou et il a créé un modèle de chat qui vivait ses rêves. Alors on a vu les chats qui, au lieu d'être paralysés, se mettaient à miauler, à poursuivre des proies, à guetter, à faire leur toilette, alors qu'ils étaient en sommeil paradoxal. Il a créé un modèle de trouble du comportement en sommeil paradoxal. Et ça, c'était dans les années 60. Et il a fallu attendre plus de 30 ans pour que la même chose soit découverte chez l'homme, qu'on s'aperçoive que chez certains hommes, ce verrou nocturne qui nous empêche d'extérioriser nos rêves pouvait être touché par une maladie qui commençait, et les hommes se mettaient alors à vivre leurs rêves pleinement et souvent plutôt violemment.
Donc ce sont ce qu'on appelle des violences en sommeil paradoxal.
Oui, troubles comportementaux en sommeil paradoxal. Normalement, nous sommes paralysés. Et là, ces personnes-là bagarrent. Essentiellement, c'est de la bagarre, des coups de poing, des paroles, des jurons, des exclamations. Et puis, c'est vrai que c'est plutôt les personnes qui font des choses violentes qui viennent consulter à l'hôpital. Quand on met systématiquement une vidéo infrarouge la nuit, on s'aperçoit que finalement d'autres gens font des choses non violentes mais n'auraient pas consulté pour cela. Donc on a commencé à pouvoir décrire non seulement des bagarres nocturnes, des disputes, mais aussi des personnes qui donnent un cours, font une conférence, passent leurs armées en revue, fument une cigarette fictive, mangent une soupe sans soupe. Donc tout ce qu'on ferait dans la vie quotidienne, mais le faisant endormi, les yeux fermés, allongés dans leur lit. Des chansons de garde, des éclats de rire, toute une vie nocturne qu'on ignorait avant de mettre des micros et des caméras la nuit.
Alors ça peut prêter à sourire, mais parfois ça peut être dangereux et pour la personne qui dort, mais aussi pour la personne qui dort à côté, pour le conjoint par exemple.
Absolument, absolument. Il faut pas oublier que le dormeur est dans une autre histoire, dans son rêve, et il oublie qu'il a quelqu'un à côté de lui dans son lit. Donc ça peut être dangereux pour lui parce qu'il donne des coups de poing et bon, il peut briser la lampe de chevet, taper dans le mur. Mais il peut aussi cogner son épouse et généralement ils sont très gênés de ça parce que ce sont des personnes qui ont 30, 40, 50 ans de mariage, qui s'entendent très bien et puis monsieur commence à frapper madame la nuit. Donc on voit effectivement des coupures, des hématomes, c'est jamais trop trop grave mais enfin ça peut être assez sérieux. On a une patiente comme ça qui rêvait qu'elle cueillait des pommes et qui a cueilli la tête de son mari en la tirant un petit peu fort. Dans quelques cas, ça peut être d'attraper assez violemment le bras parce qu'on se défend contre un agresseur. Oui, ils défendent leur famille dans le rêve. Hein. C'est souvent, on agresse leur famille et ils défendent tout le monde. C'est plein de bonne volonté, sauf que ce n'est pas dirigé contre la bonne personne.
Vous dites 30, 40 ans de mariage, cela signifie que ça concerne un public âgé, ces personnes qui ont justement des troubles comportementaux.
Oui, à la différence du somnambulisme qui touche vraiment des jeunes, hein, qu'on voit entre l'âge de 5 ans et de 30 ans, ces phénomènes de sommeil paradoxal se voient après 50 ans. Donc c'est essentiellement une population qui est majoritairement masculine et qui s'échelonne de 50 à 90 ans à peu près. Alors il y a des femmes aussi, mais elles font plutôt des choses un peu moins dangereuses, un peu moins de bagarres, on va dire.
Et donc, à partir de vos travaux, vous avez pu établir un lien. Dans 80% des cas, lorsqu'il y a justement ces troubles comportementaux dans le sommeil paradoxal, il y a un lien avec le déclenchement de la maladie de Parkinson.
Oui, alors ça a été montré par différentes équipes dans le monde. Les personnes qui ont ces comportements en sommeil paradoxal vers 50-60 ans, si on continue à les suivre, à les voir régulièrement tous les ans, on s'aperçoit que petit à petit, au bout de 5 ans, 10 ans, un délai variable d'une personne à l'autre, on voit apparaître petit à petit les signes d'une maladie de Parkinson, c'est-à-dire un ralentissement du mouvement, des tremblements. Et puis, pour l'autre moitié d'entre eux, des troubles cognitifs avec ce qu'on appelle une démence à corps de Lévy qui débute. Donc, on est... Alors, 80%, c'est des séries qui sont suivies sur une quinzaine d'années. Quand on suit les personnes sur 10 ans, on est à 50% de transformation en maladie neurodégénérative. Ce qui nous fait dire que ce trouble nocturne, cette atteinte dans le tronc cérébral du verrou qui nous paralyse en sommeil paradoxal, est la première étape d'un processus de perte de neurones cérébrales, ce qu'on appelle la neurodégénérescence, qui commence.
Donc c'est un premier indice qui permettrait justement de prévenir certains cas de Parkinson.
Oui, on se dit que si on est 10 ans avant le début d'un Parkinson, on est peut-être encore dans une période où les personnes sont exposées à un produit qui est en train d'abîmer leurs cellules cérébrales. Alors c'est peut-être un mauvais gène, on fait aussi de la recherche génétique, mais on aura du mal à changer le destin d'un mauvais gène. Par contre, si c'est un produit environnemental, et on sait que dans le Parkinson, certains pesticides peuvent être impliqués, certains herbicides, l'usage intensif de la soudure, chez les personnes qui vivent plutôt aux Antilles, la consommation d'un fruit qui s'appelle le corosol et qui contient un produit toxique pour les cellules cérébrales, qui est beaucoup bu et utilisé en fruits, eh bien on sait que ces produits-là abîment certaines cellules cérébrales et sont associés, au moins en épidémiologie, à la maladie de Parkinson. Donc on peut déjà rechercher si nos patients sont exposés à ces produits-là et leur demander de cesser toute exposition tout de suite pour éviter cette transformation future.
Ça, c'est pour justement essayer de prévenir Parkinson. Comment recevez-vous ces patients? Puisqu'au départ, ils viennent avec donc, des troubles du sommeil. Ils viennent vers vous pour, j'imagine, comprendre leurs troubles, mais aussi pour qu'on les soigne. Quelles sont les solutions que vous leur apportez?
D'abord, on vérifie que c'est bien ça le trouble, oui. Puisqu'il y a d'autres formes d'agitation nocturne. Hein. Les apnées, les impatiences, les mouvements de jambes, certaines confusions nocturnes liées à des produits. On les enregistre, on regarde ce qui se passe, on identifie assez facilement avec une vidéo et un enregistrement céphalographique ce qui se passe la nuit. On propose ensuite, pour les personnes qui ont ces troubles comportementaux en sommeil paradoxal, on dispose de différents médicaments dont certains n'ont vraiment pas d'effet secondaire et qui sont très efficaces pour restaurer un calme nocturne et éviter ces mouvements-là. Je pense à la mélatonine, au clonazépam, aux opiclones qui sont utilisés pour cela. Donc déjà, on traite le trouble, c'est notre travail de médecin.
Ça, c'est pour ce qui est en dehors donc, de cette prévention de maladie de Parkinson.
Absolument. Ça, ça ne va pas empêcher le développement de la maladie de Parkinson, mais ça va empêcher déjà les violences nocturnes et les blessures et rendre les nuits plus calmes parce que ce n'est pas très agréable d'avoir sans arrêt des bagarres la nuit. C'est les patients les plus gentils du monde qui bagarrent dans leur sommeil. Ils se demandent d'ailleurs où est-ce qu'ils vont chercher ça.
Vous êtes médecin praticien, c'est-à-dire que donc, vous rencontrez ces patients, vous faites de la recherche. J'imagine que ce sont des gens, lorsqu'ils viennent vous voir, et s'engagent à des protocoles assez longs pour pouvoir justement travailler sur leur pathologie.
Alors ça dépend effectivement de ce qu'on leur demande. Quand on leur demande de participer à une recherche sur comment fonctionne le cerveau avant un apprentissage et pendant le sommeil, c'est simplement une nuit ou deux nuits de participation. Et sinon, pour le projet pour lequel nous avons reçu ce prix, il va falloir suivre les personnes pendant effectivement au moins 5 ans. Et donc, il faut qu'ils s'engagent à revenir tous les ans pendant 5 ans. Maintenant, ce sont des patients qui ont besoin d'être suivis de toute manière. Donc, on va leur demander de revenir simplement plus régulièrement et de participer à plus de... d'échantillonnage, essayer de garder un petit peu de sang, un petit peu de graisse, parce qu'on pense que les produits toxiques se fixent plus dans la graisse qu'ailleurs et que c'est un réservoir dans lequel on a des chances de trouver à quoi ils sont exposés. Et puis, pour ceux qui voudront bien, on fera une ponction lombaire pour avoir un échantillon du liquide qui circule dans le cerveau et qui contient peut-être des éléments déjà de toxicité.
Question justement sur ce prix, donc prix de la Fondation Énergie, que vous recevez conjointement avec votre confrère qui travaille plus sur les narcolepsies, qui est monsieur TAFTI. Justement, quels vont être les projets à mettre en œuvre à l'issue de ce prix que vous allez recevoir conjointement ?
Nous allons mettre en place une cohorte de patients, nous en suivons déjà une cinquantaine, oui, qui ont ce trouble et qui n'ont pas encore de maladie de Parkinson. Garder un certain nombre d'échantillons de sang, d'urine, de graisse, de liquide céphalo-rachidien, leur faire passer différents tests de mémoire, de motricité, et les revoir très régulièrement, tout en cherchant quels produits toxiques pourraient être en train de les intoxiquer. En parallèle, nous investissons dans une meilleure exploration nocturne avec des caméras centrées sur le visage pour regarder les expressions émotionnelles sur le visage la nuit. On ne sait pas encore très bien comment le sommeil gère les émotions la nuit, comment il les métabolise quand on vient d'avoir une émotion forte avant de dormir. Donc on va utiliser les mimiques faciales que nous voyons chez ces personnes la nuit pour avoir une idée de savoir si c'est plutôt gai, qu'est-ce qui se passe au niveau du visage. Et puis nous utilisons toutes les personnes qui parlent en dormant comme des modèles pour savoir si, quand on apprend un texte, par exemple, avant de dormir, est-ce qu'on sait qu'on le sait mieux le lendemain matin. Il y a une fonction consolidatrice du sommeil sur la mémoire. Est-ce que cette fonction se fait simplement grâce au repos, ou est-ce qu'une partie du cerveau retravaille l'apprentissage pendant le sommeil, et en particulier, est-ce que ces textes sont redits en partie ou complètement pendant le sommeil. Voilà une des autres utilités du prix.
Travailler aussi sur la temporalité du rêve. C'est vrai qu'on pensait qu'un rêve pouvait durer en fait très très peu de temps, même si nous on avait une impression de durée très importante. D'ailleurs, je crois que c'est un point sur lequel vous avez déjà des éléments de réponse.
Oui, en fait, on a longtemps dit que les rêves étaient très brefs, mais grâce à ces comportements nocturnes, nous savons qu'ils durent le même temps que la même action à l'éveil. Je pense par exemple à ce patient menuisier qui a construit un escalier dans son rêve et qui, dans la réalité, comme il avait ce trouble comportemental, a pendant une heure de sommeil paradoxal fait ses plans, choisi ses outils, très longuement utilisé un marteau fictif. Donc on sait qu'il respecte le temps normal qu'il aurait mis à faire cela dans la journée.
Alors, dernière question, Isabelle Arnulf. Nous avons tous eu à un moment donné des troubles du sommeil. Est-ce que cela fait de nous pour autant des grands malades, ou est-ce que c'est normal d'avoir des troubles du sommeil, d'avoir parfois des accès de somnambulisme sans pour autant le développer à long terme ou d'autres pathologies ?
Non, il y a beaucoup de formes mineures de somnambulisme où on peut de temps en temps, surtout si on est un petit peu stressé, avoir un cri dans son sommeil ou se débattre. Les personnes dont on parle sont des patients, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment ça toutes les nuits de façon intense et qui se mettent en danger ou mettent en danger les autres.
Donc quand conseillez-vous de consulter ? C'est à partir du moment où il y a danger ?
Danger, oui. Dès qu'il y a danger, dès qu'il y a eu un comportement vraiment beaucoup plus violent ou dès que les phénomènes sont très fréquents, qu'ils surviennent toutes les nuits ou presque toutes les nuits, là il faut consulter.
Répétition et dangerosité.
Dangerosité, absolument.
Je vous remercie Isabelle Arnulf, et donc nous vous adressons nos félicitations pour ce prix conjointement reçu avec Mehdi Tafti, qui est donc également un de vos confrères qui travaille lui sur la narcolepsie, plus dans le domaine des neurobiologies. Merci à vous d'être venu nous voir, et puis bonne route et bonne continuation dans vos recherches. Merci à vous.
Merci beaucoup.